France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Stéphanie Doustrac, née à Rennes un 27 juin 1974 et je suis artiste lyrique.
Bonjour Judith Chen.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, de prendre ce temps, vous qui êtes un petit peu comme un pendule, vous ne vous arrêtez jamais, voilà, des productions un peu partout sur les plus grandes scènes du monde, généralement pour se frotter à des personnages au fort tempérament, qu'ils soient masculins ou féminins. D'ailleurs, vous avez un côté caméléon.
Oui.
Ici, on se retrouve à Paris, Stéphanie Doustrac, alors moi, je vous croyais bretonne.
Oui, oui. Non, mais je l'étais encore récemment, jusqu'au mois de juillet, quasiment. Et puis, grâce à ma fille, je dirais, ou en tous les cas, je suis encore, ou elle m'accepte encore, ou nous cohabitons encore. Voilà, on s'est installé à Paris.
Alors ici, on est chez vous, je le disais. Il y a un piano. Vous êtes une musicienne qui chantait et qui jouait, qui vous accompagnait. Le piano, je veux dire, à quoi sert-il ?
Malheureusement, pas du tout. C'est mon grand drame. J'ai quand même pas mal étudié le piano, mais il est vrai que je crois que quand j'ai passé mon examen de piano accompagnement, même le directeur des études m'a dit « Mais je comprends pas, pourtant vous êtes musicienne. » Tellement c'est dramatique. Je n'ai absolument aucune compétence en piano. Mes pauvres élèves le savent, voilà, et moi aussi. Alors donc j'ai un piano, mais c'est pour les pianistes qui viennent gentiment, voilà, me faire travailler. Je sais pas, mon cerveau et mes deux mains, j'ai même pas de main gauche, quoi.
Alors si on revient un petit peu sur votre parcours, Stéphanie Doustrac, vous êtes née en Bretagne, famille bretonne, père, mère, des deux côtés.
Aveyron, non, mon nom, moi c'est Baduel Doustrac et ça vient de l'Aveyron, du côté de l'Aïeul. Par contre, du côté de maman, oui, c'est une vieille famille bretonne.
Ouais. Et Baduel Doustrac, ils viennent d'où ?
Du côté de papa, c'était l'Aïeul et c'était Baduel. Et Doustrac est venu parce qu'il était le maire, si j'ai bien compris, si je me souviens bien de ce qu'on m'a raconté, mais venait, voilà, était maire du village de l'Aïeul et donc a gagné le nom de Oustrac, gagné qui était le nom de sa propriété à l'Aïeul. Donc voilà, Baduel Doustrac et du côté de papa, et c'est avec Rhône Poulenc, enfin Poulenc, voilà. Donc il y a quand même un peu de musiciens. Jacques Delaprelle, j'ai eu la chance aussi de découvrir et j'en découvre quelques-uns grâce à mon métier. Malheureusement, enfin c'est comme ça, mais ma famille n'est pas du tout, je dirais, artiste dans le sens d'aimer les belles choses. Mais nous, je pense que c'était plutôt les vieilles pierres. Il y a un très beau château en Bretagne que mon cousin Olivier de Lorgeril sauvegarde, parce qu'on s'en est là. Enfin, je veux dire, c'est très très lourd. Donc c'était plutôt les vieilles pierres, c'est plutôt... Mais moi, non, la musique, je suis un peu la seule. Et tant mieux, d'ailleurs.
Thank you. vous avez dit Poulenc. Mm-hmm. Donc vous êtes
affilié du côté de la famille de papa à Francis Poulenc.
Et on en disait quoi de Francis Poulenc dans la famille de votre père ?
En fait, c'est quand j'ai commencé à chanter que papa m'a fait découvrir. Je me souviens d'avoir écouté. On avait un vieux disque, un grand 33 tours du Gloria ou du Stabat Mater, mais pas tellement l'opéra, pas du tout même, ni ses mélodies, mais c'était plutôt pièces instrumentales ou chorales, ça évidemment. Et donc j'ai découvert ça. Parce que moi, j'avais fait de la chorale aussi. J'ai commencé la chorale à 11 ans. Oh, mais quelle musique. Enfin, et là, par contre, autant j'ai beaucoup de mélodies. Il a écrit beaucoup de mélodies que je peux faire. Et malheureusement, son Gloria, je peux pas. C'est trop haut. C'est vraiment pour soprano. C'est mon grand drame.
Stéphanie Destrac, quand vous étiez enfant, si vous vous replacez même avant le temps musical, j'allais dire, vraiment, la petite fille que vous étiez, elle était comment? Plutôt timide, plutôt gourmande, coquine? Comment, si vous nous dessiniez un petit peu cette enfance, ce serait quoi?
En fait, j'étais plutôt la malade. Vous savez, on a toujours des rôles dans la famille, et moi j'étais la malade. C'est-à-dire que j'ai toujours été malade, très asthmatique, très bronchite asthmatiforme, en fait. Donc ça durait, j'étais malade un mois, deux mois, j'ai loupé en général au moins un trimestre par année d'école. Bon, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais bon, c'est... Donc voilà, ça formate en fait une certaine mentalité, je le vois maintenant avec le recul, où j'étais donc très souvent élevée par mes grands-parents maternels, puisque mes parents travaillaient, mes sœurs, enfin voilà, elles étaient à Rennes, et donc moi j'étais plutôt à la campagne avec mes grands-parents. Au bout d'un moment, ça a été comme ça que ça a été un peu décidé, et un peu isolée, soit dans ma chambre, toujours un peu, voilà, j'étais la fragile, quoi, j'étais fragile. Donc, qu'est-ce que ça crée? Quand même quelqu'un de très timide, lisant beaucoup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé la télé, enfin il n'y avait pas beaucoup de choses encore mon enfance, mais... Voilà, donc je pense que c'est une nature beaucoup plus introvertie, la lecture, et c'est pour ça, enfin, que peut-être maman, voyant un peu ce tempérament très, les épaules en dedans, enfin très haut comme ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider à s'ouvrir un peu, et c'est vrai que moi, le théâtre m'a toujours, en tous les cas, je pense que si je n'avais pas découvert l'opéra, j'aurais essayé d'être comédienne. J'ai fait un peu de théâtre. Parce que, voilà, tempérament très timide. Et en fait, je chantais énormément. J'ai toujours, dans les toilettes, salle de bain, etc., là où ça résonne, je m'amusais toujours à chanter. Et encore une fois, maman m'a inscrite dans une chorale en 6e, à Rennes. Et j'ai rencontré un chef de chœur, Jean-Michel Noël, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Grâce à lui, il m'a donné l'amour de la musique, de l'écoute avec les autres, du partage. Et pourtant, je n'en ai fait qu'un an, puisqu'après, je suis partie en pension. Mais en un an, il m'a dit d'ailleurs, écoute, t'as une jolie voix. Si tu veux, je te fais travailler, tu feras des solos. Donc, et j'ai des souvenirs d'avoir des petites phrases solo, de me shooter à la Ventoline avant, parce que j'avais évidemment de l'asthme, et puis de faire quand même mes petits solos, etc. Enfin, voilà. Mais en un an, j'ai l'impression que cette année de sixième, eh bien, pourtant, je connaissais pas encore l'opéra, mais je pense que le virus était là, quoi. La musique, en tous les cas, est vraiment rentrée dans ma vie, et ce plaisir qui ne me quitte jamais sur scène, c'est vraiment d'être avec les autres, de partager ce bon, enfin voilà, quelque chose d'ensemble.
Donc cette enfance que vous passez, quand vous êtes chez vos grands-parents, c'est le grand air. Je veux dire, c'est la Bretagne avec l'air marin, ou c'est pas la Bretagne avec l'air marin?
Non, c'est plutôt l'air campagne. On était dans les terres. Et c'est quand même un médecin qui, au bout d'un moment, a dit non, là, les vieilles maisons, donc les allergies, les acariens, etc., là, on a tout faux. Donc l'air marin, soit, on y allait l'été, mais je connaissais pas la montagne. Il faut la montagne, quoi. Il faut être à 1200 mètres d'altitude. Voilà. Et je pense, justement maintenant, c'est ce que je vois avec le recul, le fait d'avoir eu cette enfance, je pense, relativement isolée, ou en tous les cas de solitude, finalement m'a créé, parce que ce métier de chanteuse d'opéra, de soliste, on est seul. On est très souvent seul. Eh bien, j'ai quand même l'impression, c'est incroyable, mais que mon enfance m'a créé. Tout a été fait pour que je puisse supporter, parce que c'est pas facile et j'en connais plein qui abandonnent quand même, supporter cette solitude, le fait de même de bouger, de ne pas être trop attaché à ton environnement, enfin je veux dire matériel quoi, ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que toute mon enfance n'a fait que de créer le fait que je puisse devenir relativement épanouie dans ce métier qui est assez dur et exigeant quoi.
Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ou qu'est-ce qu'ils font encore ?
Ils ont pas mal changé, pas mal changé. On a eu un camping, un castel camping. Donc on a vécu dans un château où nous les trois filles, on y a travaillé aussi tous les étés puisque donc il y avait pas de vacances quoi. Donc on était là l'été. Moi j'ai fait, on recevait les étrangers, enfin voilà, qui étaient beaucoup anglais. Alors ce qui est génial, c'est qu'on entendait. Moi j'ai toujours entendu donc parler hollandais, allemand, anglais. C'était principalement eux qui venaient. Et puis donc j'ai été animatrice pour les enfants. J'ai été épicière, barmaid, DJ, on a vraiment fait tous les boulots qu'on pouvait, parce qu'on était là et que c'est génial quand même.
Et vos parents travaillaient ensemble.
Et donc voilà, ouais, les parents travaillaient là. Maman sinon après a travaillé à Rennes en tant que responsable d'un magasin. Mm-hmm. Papa qui était cadre a fait différents travaux. Bon. Non, ils étaient déjà modernes. Il n'y a pas eu un parcours tout à fait absolument pas tracé d'ailleurs.
Vous avez quelle place entre vos sœurs
hein? Milieu.
Ah, entre vos sœurs, justement.
Voilà. Ouais, j'ai une grande et une petite.
Et elles font quoi aujourd'hui?
Alors mon aînée, elle a fait l'école du Louvre. Si elle pouvait étudier toute sa vie, elle étudierait. Et la petite, ma petite, qui n'aime pas qu'on l'appelle la petite, elle a fait une école, elle a été chasseuse de tête, comme on dit. Et puis là, maintenant, elle est en reconversion. Elle a quatre enfants aussi. Elle est très différente. La première est plutôt littéraire. La troisième, c'était plutôt l'équitation. Et moi, la musicienne.
La trois déesses se querellent dans un bois. Qu'elles disent ces princesses la plus belle de nous trois. Elles vont être ces déesses pour enjôler les garçons. Elles vont être ces déesses ont de drôles de façons. De drôle de façon. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi, sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau.
Quand vous parlez de la pension et vous dites qu'il fallait les cimes et les 1200 mètres, vous avez été envoyée en pension du coup...
Trois ans, je suis partie trois ans.
Mais en montagne, pour votre asthme.
Ah oui. Ouais, ouais. Un médecin avait dit à maman, écoutez, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre fille, c'est de l'envoyer, quoi, c'est de vous séparer d'elle. Et je pense aussi, c'est parce que pour les parents, c'est extrêmement angoissant d'avoir un enfant asthmatique. Et l'angoisse crée l'asthme. Donc, ça se tient malheureusement. Ça a été formidable pour moi qu'ils aient eu ce courage-là aussi.
Vous aviez quel âge alors ?
J'avais 12 ans. C'était le début rentrée de cinquième où là, vraiment, j'ai été très, très malade, sous tente à oxygène à l'hôpital. Donc, ça a été d'abord une année en Suisse. Parce que j'ai une grande tante qui était en Suisse et qui, en urgence, comme ça, m'a trouvé un home d'enfants où on était 6, que des étrangers, nationalités tout confondues, de 6 ans à 15 ans. Donc je me suis retrouvée avec un garçon, un Iranien, quelques Suisses ou Français, une petite fille, je me souviens, mignonne comme un cœur, mais qui avait 6 ans. Et qui était avec nous 9 mois quand même. Nous, on voyait pas les parents. C'est-à-dire que les parents, c'était pendant les vacances, et moi, je ne rentrais pas pendant les vacances. Je restais, et c'était d'autres enfants qui venaient envahir notre home d'enfants. Mais j'ai découvert le ski, des monitrices super. J'étais au bon air. Et
Heidi, c'est vrai, quoi.
J'avais ma chambre, j'avais un balcon, et devant la vue, il y avait un lac, les sapins, la montagne. Vraiment, c'était Heidi. Et j'étais pas malheureuse. C'est marrant. Enfin, je savais qu'il le fallait, quoi. Il faut faire ça. Il faut passer par là. Et donc, 9 mois à Crans-Montana. Alors, c'était quand même relativement rural. Mais il y avait une chorale auquel on m'avait inscrit dans le village. Et puis en plus, le chef de chœur m'a mis soliste tout de suite. Et on a fait, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques, si je me souviens bien, d'hiver. Et j'ai eu un solo. Et alors là, je me suis fait détester par tous les enfants, ce qui fait que j'ai fait ce concert-là. Et après, j'ai pas continué. Et puis ensuite, Briançon. qui est très connu pour des lycées climatiques là. Alors là, c'était en France et c'était médecins très très médicalisés. On voyait le matin les infirmières, on souffle dans des les asthmatiques, comprenons les peak flow pour voir où on en est de notre capacité respiratoire, les traitements. Ça m'a permis d'avoir une vie normale, de découvrir et d'autres asthmatiques bien pires que moi. Donc, en fait, ça m'a permis de relativiser aussi où j'en étais et de me dire non, je peux avoir une vie normale.
C'est drôle, Stéphanie Doustrac, parce qu'il y a quelques mois, enfin, à la rentrée, au même micro que vous, il y avait Jeanne Berbier. Mm-hmm. Et Jeanne Berbier a commencé le chant parce que gravement asthmatique.
Voilà.
Donc, ouais, c'est marrant, c'est-à-dire que, oui, mais c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, finalement, c'est la mère, en l'occurrence, qui s'est dit. Il faut que mon enfant respire, il faut qu'il chante.
Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien? Qu'est-ce qui fait marcher le souffle? Alors, on n'était pas peut-être justement de grands sportifs, donc ça a été tourné vers le côté artistique. Et comme je chantais, elle s'est dit peut-être que ça va aider. Et ça a été extraordinaire, parce que normalement, j'aurais dû avoir un traitement. J'avais un traitement à vie. Enfin, on m'a toujours dit, théophylline et antihistaminique. Et puis, à 19 ans, quand j'ai commencé mes études, je suis rentrée à Lyon, d'abord au conservatoire, enfin CRR, et puis ensuite CNSM. Et je n'ai plus besoin de médicaments. Terminé. Et je n'ai plus de traitement 19 ans terminé. Ouais. Ça change la vie. Je pense que tout ça nous construit justement pour avoir envie, quoi. Les chanteurs, on peut tellement tomber dans cet aspect hypochondriaque. Attention, tu vas avoir froid. Moi maintenant, c'est attention, tu vas attraper froid. Ma famille n'arrête pas de le répéter. Ils savent que ça me rend dingue. Mais je fais un métier où je suis obligée de prendre soin de moi. Donc c'est génial. He sings his yodel and jive, yodel and jive, yodel lady, yodel lady. He sings his yodel and jive all day. Hoy, 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 the lady, hoy, the little lady. The mountains echo his jive, yodel and jive. Hoy, 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 the lady, hoy, the little lady. The mountains echo his jive all day. Sometimes he yodels so sweetly to imitate the Swiss. Holy, oh, lady. But the echo comes back like this. Yodel lady, yodel little lady. The heels are always alive with yodel and jive. Yodel lady, yodel little lady. The mountains echo is yodel and jive.
Stéphanie Doustrac, on entend cette enfance qui se dessine avec différentes teintes, à la fois cette forme de solitude et puis aussi une détermination qui sans doute naît de tout ça,
de ces frustrations. Ah oui, très 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 clairement.
Très clairement et grand premier coup de théâtre, si je puis dire, cette entrée à la maîtrise de Bretagne. Vous avez 11 ans.
Oui.
La rencontre avec
Jean-Michel Noël.
Et quel est votre premier souvenir quand vous arrivez dans cette maîtrise? Quel est le premier parfum, la première chose dont vous pouvez vous souvenir, comme émotion, sensation?
Alors c'est Jean-Michel qui nous fait travailler comme ça les démarrages, les départs, sans nous donner forcément un geste, de nous dire « écoutez-vous ». Et je sais pas, c'était vraiment de partir tous ensemble, cette écoute, cette attention à ce qu'on va faire, d'être donc très concentré sur ce que nous devons faire, mais aussi de ce qui nous entoure, de ceux qui nous entourent, et de tous partir. Oh, moi, ça ne m'a jamais quitté, en fait. Ce bonheur-là, quand tout à coup, ça démarre ensemble. Et puis, le regard d'un prof face à nous, exigeant et passionné. Et ça, je lui dirais jamais assez merci, mais il l'est resté d'ailleurs toujours. Il vient de prendre sa retraite, mais il continue, à avoir différents ensembles. Enfin, c'est un cadeau de, quand on est enfant, de découvrir la passion, de quelqu'un, d'un prof, et qu'il la partage. Mais il est exigeant, hein. C'est pas quelqu'un de, il a beaucoup d'humour, mais en même temps, très dur, quoi. Enfin, très dur, exigeant. Ouais, les enfants, on a envie de ça en même temps. On a envie de cette exigence et d'en être à la hauteur, en fait. Et quand il me faisait travailler, nous, c'était à l'heure du déjeuner, on avait des petits échauffements, on était quelques-uns, hein, à faire des solos ou à, en tout cas, à ce qu'il nous fasse travailler. Mais j'ai l'impression que tout ça est passé, c'était limpide, mais c'était une découverte formidable, quoi. Surtout avec les amis. Moi, j'avais surtout mes amis qui étaient dans la chorale.
Est-ce que c'est aussi, après cette première petite enfance très isolée, c'est peut-être aussi le moment où tout d'un coup vous êtes moins seul,
Ah oui,
où
ah
vous
bah
découvrez des
totalement.
gens et où vous vous passionnez pour une même chose. Tout ça, c'est
Ouais.
très fédérateur, ça.
Exactement, exactement. Bah ça, ce qui fait qu'on sort de la coquille. Et plus on fait quelque chose que l'on aime, plus on s'épanouit. Et maman avait tout à fait raison d'encourager ça.
Chante avec ton cœur, chante avec ton cœur, chante avec ton cœur, danse avec ton cœur, danse.
Avait votre voix quand vous avez 11, 12, 13 ans pour faire que Jean-Michel Noël ou même son équivalent, si je puis
Ben
dire, en
oui, bien
Suisse, se
sûr.
disent Stéphanie, c'est solo.
Alors sincèrement, je ne pourrais pas dire. Je pense que j'avais, comme on dit, une voix facile, que la voix sortait bien, longue. On m'a toujours dit qu'elle était longue. Enfin voilà, je montais bien, je descendais bien. Et puis apparemment, le timbre devait être assez joli, même si après, enfin voilà, ça change avec l'âge. Mais j'aimais ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire.
Et ça, est-ce que vous vous souvenez, Stéphanie d'Oustrac, de ce que vous aimiez, de dire la sensation dans le gosier? Elle était comment?
Les
Est-ce
aigus.
qu'il...
Moi, en fait, et je me souviens qu'on avait fait le Miserere d'Allegri. Et alors, il y a des contrutes qu'on faisait, clac, clac, clac. Et on était quelques-uns à se le faire, mais des concours de contrutes. Moi, j'avais vraiment les aigus hyper faciles. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à accepter que la voix descende. Parce que quand je suis revenue de pension 3 ans après, j'avais sûrement déjà un peu mué, ou j'avais pas, bon, puis j'avais pas travaillé la voix. Et donc, Jean-Michel me met dans les altis. Et ça n'a pas du tout. Ah non, j'étais pas du tout heureuse.
C'était une déconvenue, ça? Vous
Ah
aviez l'impression d'être
ouais, c'était
recalée?
une. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. Alors déjà, j'étais plus soliste. Bon, ça, ok, je veux bien. Mais en plus que la voix baisse, enfin que la voix descende, c'est-à-dire qu'on l'entend moins bien, quoi. On entend moins. C'est pas les voix qu'on entend. Enfin bon, elles font partie de l'ensemble, c'est vrai. Donc je dois quand même avoir un petit côté soliste, très nettement, parce que j'ai beaucoup moins apprécié d'être au milieu, quoi. Et puis là-haut, c'est quand même. C'est génial, quoi, les voix d'aigu. Moi, j'aurais aimé être enfin, coloratour. J'ai eu du mal. Et d'ailleurs, j'ai un professeur pendant quelques années qui m'a fait travailler cette voix aiguë, qui me disait, non, t'es peut-être soprano, effectivement. Eh ben, non, non, mes muscles, mon corps, au bout d'un moment, il dit non, quoi. Non, non. Malheureusement, j'ai des aigus faciles, mais il faut pas que j'y reste. Je ne peux pas y rester.
Thank you.
C'est sur ces si, si cristallins du Miserere d'Allegri, ici dans la version des Voices 8, que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Stéphanie Doustrac. Réalisation Olivier Guérin, prise de son Georges Thau, mixage Philippe Mercher et attaché de production Flora Sternadel. Rendez-vous demain pour le deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.